9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Alex Lutz.
Bonjour.
Vous êtes comédien, auteur, humoriste, acteur, metteur en scène, César du meilleur acteur pour votre performance en vieux beau chanteur sur le retour dans le film Guy, réalisé par Vos Soins. Vous êtes aussi le créateur de la série Catherine et Liliane. Votre dernier spectacle, c'est au Folies Bergère.
Co-créateur,
vous avez raison. Votre dernier spectacle, c'était au Folies Bergère. Je ne peux pas donner le titre parce qu'il n'y en avait pas. Un seul en scène, pas tout à fait seul en scène, parce que vous étiez avec votre cheval. Et là, votre actualité, c'est 5e set, film de Quentin Reynaud avec Christine Scott Thomas et Anna Girardot. Ça sort aujourd'hui. C'est l'histoire de Thomas, un tennisman pro de 38 ans, 250e mondial. Comment vous pouvez le situer ?
Comment je peux le situer ?
Quel genre de personnage il est ? Qu'est-ce qu'il fait ? Où il va ?
Il est dans une quête presque désespérée de retrouver... Enfin, de solder quelque chose, je dirais. Parce qu'il a été comme ça... Ah, on me ramène un masque qui n'est pas... Parce que je faisais
du bricolage.
Des travaux pratiques en même temps.
C'est un ancien grand espoir du tennis.
Grand espoir du tennis. Et il perd sur une balle de match en demi-finale à Roland-Garros en 2001. Et depuis, tout en dérivant dans les limbes du classement, comme ça, lui, il continue à s'accrocher parce qu'il reste un grand tennisman, un professionnel, mais avec cette cruauté du classement en tennis où effectivement quand vous êtes plus dans à partir des 100-150e mondiaux et tout, ça devient très compliqué pour tout un tas de choses familiales, financières, enfin voilà.
Ce qui est passionnant dans ce film, c'est que ce n'est pas seulement un film sur le tennis, parce qu'il a une triple vie, le tennis, mais également sa vie de famille avec son fils et sa femme. Il est également prof de tennis, il entraîne des gamins dans le club de sa maman. On va entendre la bande-annonce.
Alors Thomas, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grand ?
J'ai envie de gagner Roland-Garros, c'est tout ce que je veux.
Thomas Edison est toujours resté dans les profondeurs du classement sans jamais réussir à revenir au premier plan.
On vieillit tous, Thomas.
Ça va le genou ?
Moi, j'abandonne pas.
Thomas Edison, donc, affrontera Damien Tosso.
On a quand même quasiment 20 ans d'écart. Ça va être un bon premier tour d'échauffement.
Tu crois que j'ai pensé que t'avais une chance de passer les qualifs ?
Tu ne me crois pas capable d'atteindre un premier tour.
Je sais que c'est important.
Mais ça fait 1000 ans.
Putain ! C'est quoi ta stratégie contre Tosso ?
Être plus fort mentalement.
Thomas Edison a 37 ans. Il sait qu'il n'a pas fini.
Alors, il est 250e mondial. Il y a deux façons de voir les choses. Ça peut être un loser parce qu'il est très loin des têtes de série. Ça peut être aussi un winner parce que 250e mondial, ça veut dire que sur les 7 milliards d'habitants de la planète, il y en a seulement 249 qui sont mieux classés que lui. Vous-même, vous le voyez comment ?
La deuxième version, indéniablement. Déjà, pour tout un tas de choses, d'ailleurs, j'avais fait Guy aussi pour ça, enfin... Je ne comprends pas ce truc. C'est un des trucs que je trouve le plus injuste, ce truc de loser et pas loser. Je veux dire, même quand on m'interviewait pour Guy, en disant « Alors, Alexis, chanteur, ringard » et tout, tout de suite, ça me faisait un truc qui était en empathie avec mon personnage et pareil avec ce joueur de tennis. C'est-à-dire, il serait millième. Je peux te dire, déjà, pour Colette et Bernard qui jouent au tennis... En été, le millième, la raquette, elle est explosée. Donc
mais déjà, le millième du département de la Savoie, c'est déjà pas mal.
Et donc, voilà, ces histoires de classement, bon, c'est cruel. Après, dans l'exercice du sport, c'est nécessaire et c'est le jeu. Mais même un perdant dans des très hauts niveaux de tennis, en tout cas, le terme de loser, jamais je pourrais l'employer.
Une fois n'est pas coutume, je vais faire un compliment. C'est un film avec une très grande profondeur, des personnages fouillés, jamais de démonstration. J'avoue que j'étais bluffé, parce que c'est pas seulement un film sur le tennis, je l'ai dit, c'est aussi un film sur les rapports humains. Il y a deux personnages de femmes très intéressants, votre mère, incarnée par Christine Scott Thomas, votre épouse, incarnée par Anna Girardot, elles sont aussi importantes que le jeu lui-même.
Ah oui, elles sont... ça s'articule, le film est très bien fait parce que...
Pardon,
ça...
je souris parce que vous avez mis un masque, on vous a apporté un masque, on l'a mis sous votre menton, voilà, pardonnez-moi.
Ah là. Oui, aussi importante parce que le film est construit comme ça, et je trouve que c'est très intelligent de la part de Quentin Reynaud, c'est cette invitation vraiment dans l'intime avec ce joueur, pendant un bon moment dans le film, comme ça on est dans sa totale intimité, et familiale, et amoureuse, et après on part sur ses matchs. Et effectivement, sa femme qui est une ancienne joueuse, qui a fait le choix de la carrière, et qui finalement a fait le choix de la famille, donc elle pourrait être un film à elle toute seule, c'est-à-dire être une athlète femme dans un sport comme celui-ci avec le choix de faire un enfant, parce qu'on en parle très peu, mais
Elle ne revient plus à son niveau après l'enfant.
Ben non, et je crois que vraiment en tennis, encore dans d'autres sports, c'est particulier. Mais alors en tennis, le décrochage dans les classements est très, 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 très rapide, ce que je ne savais pas. Et puis sa mère, qui était son entraîneuse, donc ben, rendez-vous compte, quoi. Une maman et entraîneuse en même temps, ça fait une collègue et une maman, c'est toujours compliqué, forcément.
Dialogue avec votre mère, je l'ai dit, Christine Scott-Thomas, et votre épouse, Anna Girardot. Il est question d'ambition, et vous leur expliquez pourquoi vous ne lâchez rien à 38 ans.
T'as l'air fatiguée, toi.
Non, ça va, je suis en forme.
On vieillit tous, Thomas. C'est pas une mauvaise chose.
Tu pourrais être champion de France en plus de 35.
J'ai rien à foutre des plus de 35, maman. Inès El Aïnaoui, il obtient son meilleur classement, 14e mondial. En 2003, il a 33 ans.
Non, mais on connaît ton
Six
discours.
6 mois plus tôt, il était au-delà de la 200e place. Ivan Izevich, il gagne son premier grand chelem à 30 ans, Wimbledon 2001. Connors, on en a parlé. 1991, US Open, il arrive demi-finaliste face
mais
à Djokovic, il a 39 ans. Et Connors encore 3 ans plus tard. Bah oui, Connors encore
Thomas,
3 ans
Thomas.
Plus tard, 1995, Halle, Allemagne, il arrive en quart de finale, il a 43 ans.
Et au passage, ce dialogue est un mantra, il le connaît absolument par cœur, il le cite en conférence de presse, et même votre épouse le connaît par cœur, elle le cite, elle le dit sur ses lèvres qui bougent en même temps.
Oui, durant la conférence de presse, elle ne peut pas rentrer dans la salle, il y a une vitre qui les sépare, elle voit son homme redire et redire ce que l'on vient d'entendre, qu'il dit en famille, qu'il dit à qui veut l'entendre, oui, parce que pour lui, ce n'est pas fini, qu'il a comme ça quelques joueurs dans son panthéon, qui peuvent représenter un espoir pour continuer.
Et vous citez un détail très intéressant, elle ne peut pas rentrer dans la conférence de presse de son propre mari, et Quentin Reynaud, qui connaît bien le monde du tennis, dit que toutes les anecdotes sont vraies. C'est toutes des petites humiliations qu'ont déjà subies des gens qui n'étaient pas classés dans les 100 premiers.
Oui.
Ou comme le taxi qui ne vous ramène pas chez vous.
Oui, qui dit les voitures sont pour les têtes de série. Je crois, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a vraiment, moi c'est comme ça qu'il m'avait présenté le film à l'époque, en disant... J'ai inventé une histoire qui est un patchwork de tout ce que je connais du tennis et qui est un mélange de tout ce qu'il a pu connaître et imaginer également du tennis. Alors,
et on n'a même pas encore parlé d'argent. Culture Média continue. On est avec Alex Lutz. On ne parle pas de l'argent d'Alex Lutz. On parle de l'argent des tennismans. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Alex Lutz, à l'affiche de 5e set, film de Quentin Reynaud, film sur le tennis, ou plutôt film autour du tennis, en profondeur et en surface en même temps. Il connaît très bien le tennis, Quentin Reynaud. Tout est documenté, je l'ai dit, il racontait que toutes les anecdotes étaient vraies. Le joueur qui saigne de la main après un gros match, j'ignorais, ça a donc existé vraiment.
Oui, alors je ne sais pas s'il saigne comme dans le film, parce qu'il y a quand même aussi énorme... Enfin, il y a de l'onirisme dans le film, il y a un travail sur les images et tout ça. Mais oui, oui, ils ont les mains en raffia à la fin.
Et travail absolument magnifique sur le son et sur la musique.
Sur le son, les lumières, les couleurs, le rouge de la terre de Roland-Garros qui se mélange au sang comme ça. C'est très, très, très beau.
Et ce qui est très, très beau, c'est qu'ils sont tournés dans les vrais décors. Alors j'avoue que je n'imaginais jamais, j'imaginais pas la vie des tennismans de cette façon. Je m'étais même jamais posé la question. Surtout ceux qui sont à la lisière du Star System autour de la 200e place mondiale. Après la qualification, parce que vous passez les qualifs pour Roland-Garros et vous y arrivez, vous devez donc jouer le premier tour, c'était votre Graal, tout devrait être rose, mais là, vous avez une engueulade, il n'y a pas d'autre mot, avec votre femme, Anna Girardot, autour de l'argent extrait.
Putain, mais à ton âge, comment tu peux pas te rendre compte que la porte de sortie, elle est là, devant toi. Redescends sur terre, Thomas. Tu sais combien on a perdu l'année dernière?
Je sais pas. L'année dernière, les dotations étaient plus faibles. Cette année, le syndicat des joueurs a changé.
Et si ta mère n'avait pas été là pour nous donner des heures, je...
Ouais, mais là, même si je perds, au premier tour, j'ai 45 000 euros. Sans compter les 5 000 du sponsor, donc l'année, elle est sauvée.
Oui, 45 000. T'enlèves les frais, les taxes, les impôts. Et là, il te reste quoi, 20 000 et t'en as dépensé 30 pour en arriver là.
Mais ça fait 1 000 ans qu'on est dans le rouge, de quoi tu me parles? Pourquoi on parle d'argent là maintenant? C'est un problème ça maintenant?
Tous les chiffres que vous donnez sont vrais. 45 000 pour participer à Roland-Garros, mais il y a certains tournois où les joueurs gagnent seulement 1 000 euros, ce qui ne couvre pas les frais d'hôtel et d'avion. On se rend compte que c'est bien plus complexe que ça, ce monde, entre guillemets, de paillettes.
Oui, ça c'est très intéressant dans le film aussi, effectivement. D'ailleurs, il le dit, dans cette scène d'engueulade que j'adore, il dit « mais je continue pour maintenir mon classement, je ne le fais pas par plaisir ». Il dit « mais si tu ne le fais pas par plaisir, tu le fais pourquoi ?» Et effectivement, bon, ben, il doit maintenir quelque chose pour être... D'ailleurs, c'est souvent le cas des jeunes joueurs. Moi, j'en ai rencontré des excellents qui, très froidement, vous disent « Ben, moi, c'est fini, je peux plus. » Alors, on les voit, ils ont 20 ans, on se dit quoi ? Ils sont encore à la fleur de l'âge et tout. Et ils savent qu'ils ont une petite blessure, un machin, et que, bah oui, quand ils vont gagner 2000, en fait, ils vont en perdre 2005 parce qu'il faut payer le coach, les raquettes, les baskets, les transports, tout, en fait. Parce qu'il n'y a pas toujours les sponsors et les accompagnants. Et ça fait des années, comme ça vient d'être cité dans cette séquence, c'est assez très compliqué.
Autre parallèle entre votre vie de comédien Alex Lutz et celle d'un sportif de haut niveau, vous dites que vos spectacles sont très physiques et là vous êtes entraîné comme un forcené parce que vous ne jouiez pas au tennis avant de faire ce film.
Non, je ne jouais pas au tennis, mais c'est quand même la moindre des élégances de s'entraîner pour un film. Alors je l'ai fait quand... sur celui-là, c'est forcément.
Dans le cas, vous l'avez fait beaucoup, beaucoup. C'était staccato,
oui,
cet entraînement.
Je l'ai fait parce que le film nécessitait ça. Après, sur n'importe quel film où il faut une expérience. Dans ce que l'on fait, faut s'entraîner. Mais moi, j'ai adoré ça parce que c'était passionnant. C'était 4 ou 5 heures de sport par jour pendant 4-5 mois. C'est génial. Avec du décortiquage du geste technique et avec la promesse dès le départ que vous ne serez pas bon joueur de tennis. Donc c'est assez chouette parce qu'on vous dit tout de suite, tu ne seras jamais bon, ce n'est pas le problème.
Mais vous avez, aussi une doublure.
Bien sûr, il y a toute la magie du
cinéma.
Il y a
une doublure avec du trucage vidéo, c'est bien ça.
Il y a vraiment toute la caisse à outils du cinéma, c'est-à-dire des trucages quand il le faut. Il y a une doublure de Frédéric Petitjean qui est formidable et hyper sympa quand il le faut. Et puis, il a été magnifique. Jürgen Briand aussi qui fait le jeune contre lequel je me bats à la fin. Et il est dément, gentil comme tout. Ils ont formé une vraie petite équipe de sport. Donc ça, c'était super. On s'aidait. Et puis moi je faisais ce que j'avais à faire, certaines frappes, certains mouvements, enfin voilà, c'était génial.
On vous voit servir, vous nous direz si c'est vous ou pas qui servez. Vous restez avec nous Alex Lutz, on va parler de musique avec Éric Bureau du journal Le Parisien qui va parler d'un phénomène artistique assez impressionnant, ce sont des groupes français, des chanteurs français quasiment inconnus ici et qui cartonnent à l'étranger. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Alex Lutz à l'affiche de 5e set, c'est l'histoire d'un tennisman qui est une sorte de. C'était le petit génie du tennis français. Et puis maintenant, il a 38 ans et il galère pour arriver à se qualifier pour Roland Garros, mais il ne veut toujours pas raccrocher. Il y a évidemment un parallèle entre le haut niveau en tennis et le haut niveau que vous incarnez dans le métier du spectacle. Mais il y a cette limite-là toutefois, c'est qu'il y a une limite d'âge avec le tennis. On ne peut pas continuer à jouer au sommet à 38, 40 ans. Alors que vous, comédien,
c'est surtout qu'il y a quelque
on
chose
peut être
de...
au sommet à 70 ans.
Ouais, et puis il y a surtout un classement réel, prosaïque, écrit, rédigé, des fédérations en sport. Voilà, les choses... Vous ne pouvez pas dire, au fait, je vais jouer Roland-Garros, j'ai 48 ans, j'ai un bon niveau. Enfin, ça ne se passe pas comme ça. Je veux dire, nous, notre métier, le classement, il est psychique. Et en plus, paradoxalement, il ne faut pas trop l'entretenir. Enfin, ouais. C'est-à-dire que si vous commencez, c'est sympa d'être dans une gagne, mais si vous abordez tout dans de la gagne, dans ce métier-là, ça devient tragique. Vous ne pouvez plus jouer avec l'autre, tout le monde est un ennemi à abattre. Enfin, c'est surtout pas comme ça qu'il faut penser le métier, même si évidemment, on a envie de tenir à flot et tout. Mais ça n'est pas comparable, ça n'a pas cette violence qu'il y a dans le sport.
Vous allez regarder les chiffres de sortie du mercredi à midi. J'explique, c'est la première séance et on dit que quasiment tous les comédiens, en tout cas tous les producteurs, regardent ce chiffre-là. Est-ce que vous-même, vous le regardez ou pas du tout ?
Bien sûr, je ne vais pas vous mentir en disant j'en ai rien à foutre, c'est pas vrai. C'est surtout qu'il y a une tradition. Il y a une tradition de dernier round avec toute l'équipe, on parlait de sport. Ouais. Du mercredi, de l'observation de ce mercredi. C'est très important pour nous. Souvent, il y a une petite soirée chiffre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on essaie de boire un verre. Ouais. Quand elle est bonne, on en boit plus. Quand elle est pas bonne, on en boit beaucoup aussi. Et puis, on essaie d'être ensemble, coûte que coûte. Et c'est vrai que c'est très important. C'est un marché qui est... C'est une maîtresse compliquée, parfois, le cinéma. Donc, voilà. Là, moi, on a fait un très beau film. Donc, moi, je suis très, très fier. On verra les conditions... Covid et autres, on verra. Il pleut demain, je crois, c'est super.
On va continuer.
Vous voyez ma détente totalement.
On va continuer à parler de succès et de musique avec un indispensable très particulier ce matin. Bonjour Éric Bureau.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste au Parisien aujourd'hui en France. C'est la première fois que vous faites un papier en radio.
Ah oui. Très heureux. Et pourtant, j'ai commencé à la radio il y a très longtemps.
Déjà bravo.
Voilà.
Très heureux que ce soit ici. Je veux dire pourquoi je vous ai contacté. Parce que vous avez fait une double page dans Le Parisien que j'ai trouvé absolument passionnante. Ce sont des artistes français qui sont peu connus en France. Je ne vais pas vous mentir. Je n'en connaissais aucun des trois. Et qui sont des stars à l'étranger.
Oui, ce sont des artistes qui s'exportent grâce à leurs concerts et aussi au streaming. Vous savez, ces plateformes Google,
Spotify, Deezer, Apple Music.
Exactement. Ouais. Ils sont écoutés dans le monde entier grâce à elles. C'est-à-dire que leur musique avant devait s'exporter avec des CD ou des vinyles. Aujourd'hui, leur musique s'entend dans le monde entier grâce à ces plateformes. Et il y a 2 ans, j'en ai eu la preuve au Festival Coachella, qui est le festival le plus branché du monde. Il y avait 11 Français. Ça ne s'était jamais vu. Et moi, j'ai été allé pour assister à la consécration de Christine and the Queens et de DJ Snake sur une grande scène en plein air. Et j'ai découvert la popularité de Polo and Pan, un duo de DJ parisiens à la musique dansante et ensoleillée.
J'ai fait un rapide sondage dans le studio. Alex Lust ne connaissait pas comme moi et Clément Lesaf connaissait juste 2 noms. Éric Bureau.
Ça, c'est un extrait de Feel Good, un titre qui résume assez bien leur musique. Alors, Polo and Pan, en fait, ils sont hyper branchés en France. Et ce jour-là, à Coachella, il y avait 6000 Américains, ouais, uniquement Américains, qui les connaissaient, qui dansaient comme des fous. Donc, je me suis dit, tiens, il faut que j'enquête sur ce phénomène. Et j'ai découvert que leur premier album, Caravelle, s'était vendu 2 fois plus dans le monde qu'en France. J'ai découvert aussi que leur deuxième album, là, qui vient de sortir, est une priorité internationale de Universal,
ouais,
qui les booste et qui croit en eux.
Polo and Pan, autre groupe plus connu à l'étranger qu'en France, Gojira, dans un style très différent.
Ah oui, alors Gojira, c'est du death metal. Enfin, à l'origine, c'est un death metal qui a un peu évolué vers quelque chose de plus mélodique, mais pour résumer, le death metal, c'est la partie la plus sombre, la plus brutale et la plus anti-mélodique du métal.
Vous savez quoi ? On va entendre.
Oui, c'est du brutal, donc... Gojira, ce sont 2 frères qui ont la quarantaine, Joe et Mario Duplantier, qui sont originaires d'un petit village de la côte landaise qui s'appelle Ondres et qui, à force de boulot et d'y croire, ont été nommés aux Grammy Awards 2 fois en 2017.
C'est la plus grande récompense américaine qui existe, les Grammy Awards.
Oui, c'est vraiment c'est les victoires de la musique, mais mondiale. Quoi. Ils ont été invités à tourner avec Metallica, qui était le groupe dont ils étaient ultra fans quand ils étaient gamins. Mais bon, voilà, ils se sont donné les moyens. Ils ont signé avec un tourneur anglais. Ils ont pris un management à Los Angeles, ils se sont installés à New York il y a 5 ans pour créer leur propre studio là-bas. Et voilà, avec le temps, le résultat est là. Leur nouvel album là, qui vient de sortir, Fortitude, il s'est classé 2e des ventes en Finlande et en Belgique, 3e en Australie et au Danemark. Ils ont même été pendant une semaine premier des ventes aux États-Unis, des premiers des ventes physiques.
Incroyable.
Et en France, 2e des ventes, ce qui est aussi assez fort. Bien, ouais.
Plus impressionnant encore, l'histoire de Clémentine.
Ah oui, alors Clémentine, là, je ne connaissais pas du tout. Je l'ai découvert parce qu'elle a fini par sortir un album en France. Elle n'en avait jamais sorti, elle ne les sortait qu'au Japon. Et ça, depuis 30 ans. Elle a 57 ans, elle vit à Saint-Germain-des-Prés. Et chaque année, elle part au Japon pour faire un album et pour faire une tournée. Alors, elle a tourné dans des temples bouddhistes, elle a tourné juste en guitare-voix après le séisme de 2011 pour aller soutenir la population japonaise qui en avait bien besoin.
Mais ce que vous dites pas, c'est qu'elle fait pas une petite tournée, c'est qu'au Japon, c'est une star, on entend Clémentine.
Quel temps fait-il à Paris ? Le ciel est-il noir ou gris ? Vous m'avez dit quand il pleut, à Paris, c'est tout bleu. Ce n'était pas très sérieux. yeux bleus. Et près de vous, j'ai compris que les yeux des amis, c'est le ciel de Paris.
Quel temps fait-il à Paris? C'est l'un des derniers titres de Clémentine qui sort quasiment 2 albums par an. Elle en a vendu 4 millions au Japon d'albums et on la connaît quasiment pas ici en France. Merci beaucoup Éric Bureau. On retrouve vos articles, vos papiers dans Le Parisien et dans Aujourd'hui en France.
C'est que des histoires, c'est que des films possibles ces gens.
Exactement.
Des scénarios, chacun c'est un scénario. C'est ouais. Très inspirant.
3 scénarios. Bah, ça me fait plaisir d'entendre ça Alex Luce. Dans un instant, notre deuxième indispensable avec Clément Le Saffre. Mais d'abord, musique avec Ton Greenham. To pieces, swimming in the deep end, trying to find my way back to you, 'cause I'm needing a little bit of love, a little bit of love, a little bit of love. Lately I've been counting stars, and I'm sorry that I broke your heart. It's something that I didn't want for you, but I'm stepping on broken glass. And I know this is my final choice. All I'm trying to do is find my path to you. I got voices in my head and there's a deafening silence. I got voices in my head and I can lie. I've been holding on to pieces, swimming in the deep end, trying to find my way back to you, 'cause I've needed a little bit of love. Just like the air I'm breathing, these open wounds ain't healing. Try to find my way back to you, 'cause I need it. A little bit of love, a little bit of love, a little bit of love, a little bit of love. Lately I've been waking up in a dreamy state, calling your name, stayed up too late, just thinking. Sur Europe 1, Little Bit of Love. Dans un instant, notre deuxième indispensable, on va parler de manga avec Clément Le Saffre.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie du comédien Alex Lutz, on parle de 5e set, le film auquel il incarne un joueur de tennis. Vous aimez les mangas, Alex Lutz?
Je suis content parce que mon fils adore ça.
Il est quel âge votre fils?
Il a 14 ans et il adore dessiner, il adore les, il appelle ça des animés d'ailleurs.
Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous connaissez par cœur les animés, vous aimez le foot, vous aimez les mangas, ce sont les BD japonaises pour qui ne connaîtrait pas. Et pour l'Euro, vous avez mélangé ces deux passions.
Oui, et qui dit foot et manga dit forcément...
Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olive et...
Oui mais non, c'était trop facile, hein. Je ne vais pas vous parler d'Olive et Tom, c'est peut-être la référence des mangas de foot, mais... Ce n'est plus le seul, il y en a même un nouveau qui est sorti pile pour le début de l'euro. Ça s'appelle Aohashi, c'est un manga qui a commencé en 2015 au Japon, mais qui débute seulement chez nous grâce à Mangetsu, c'est un nouveau label.
C'est quoi l'histoire ?
Alors c'est celle d'Aoi Ashito, c'est un adolescent de 15 ans, star de l'équipe de foot de son collège. Il rêve de devenir un grand joueur, mais il habite dans une petite ville, donc le chemin va être long. La première étape, ce sont les épreuves de sélection du Tokyo City Experience, c'est un club fictif de la Ligue 1 japonaise. C'est le début de son histoire semée d'embûches, alors vous allez me dire... C'est assez classique quand même, c'est du manga traditionnel.
Là on part d'en bas, on arrive en haut, on l'a déjà
vu
20 fois.
Exactement, mais il y a des touches d'originalité à commencer par le héros. Dans les premiers tomes, Aoi est détestable. Il est meilleur que ses coéquipiers, donc il joue perso, il ne fait pas de passe, il ne cherche qu'à marquer des buts et il passe son temps à dribbler dans son coin. Bref, pas un héros ordinaire. Sullivan Rouault, directeur de collection du label Mangetsu.
Le manga s'ouvre sur un hommage à Zidane 2006 et au coup de tête à Materazzi, qui est vraiment voulu de la part de l'auteur, où effectivement le héros a beau mettre des frappes à 30 mètres et jouer tout seul, il laisse tomber ses coéquipiers qui en finissent par perdre le match avec un joueur de moins. On est sur un joueur qui a un peu plus de talent que le gamin moyen à la campagne, mais qui est pas non plus Lionel Messi. Et effectivement, qui va devoir gagner ses galons, mais dès le départ, d'ailleurs, le premier entraînement qu'il fait de nuit pour apprendre à faire un contrôle orienté, c'est génial parce que ça permet de montrer à quel point il a des lacunes et à quel point il est déterminé.
Voilà, donc un héros qui met un coup de boule à son adversaire, c'est pas forcément le héros qu'on a envie de suivre. Moi, j'ai eu un peu de mal au début, il est individualiste, mais en fait, plus il s'entraîne, plus il devient collectif et vraiment très attachant.
Alors, pardon, mais on peut pas s'empêcher de comparer à Olivier Tom, c'est très différent.
C'est assez différent quand même. Olivier Tom, c'est un manga de foot, mais ça part dans tous les sens. Vous vous souvenez des tirs de l'aigle surpuissants qui cassaient les buts, ouais. Des terrains qui n'en finissaient pas.
Ou encore, les balles ovales pendant 3 heures.
Exactement, les sauts dans les airs à 10 mètres de haut, ils se projetaient les uns les autres. Aohashi est beaucoup plus réaliste, c'est le football vrai en quelque sorte. Il n'y a pas de super pouvoir, c'est juste de l'entraînement, de la tactique, de la technique, avec beaucoup de références à des joueurs et des entraîneurs réels. Pardon. Il faut dire que l'auteur Yugo Kobayashi est un grand fan de foot et Sullivan Rouault l'a même rencontré.
L'auteur est un vrai fan de foot. D'ailleurs, pour info, l'argent d'Aohashi s'en sert pour sponsoriser le club de foot de sa ville. Et c'est un vrai passionné de foot qui comprend très bien le sport, qui joue au foot aussi. Et ça se sent, en fait, parce que tu peux pas écrire Aohashi sans avoir joué au foot et sans savoir ce que c'est qu'un contrôle et ou un contrôle orienté, le contrôle passe et tout ça. Et donc, toutes les étapes par lesquelles va passer le joueur. Ou s'entraîner à défendre en ligne, au piège du hors-jeu, etc.
Voilà, et c'est un réalisme qui est poussé très très loin. Rien que dans les deux premiers tomes, on parle de 3-4-3, de contrôle orienté et même du jeu à la nantaise. C'est quand même très pointu, mais c'est un régal pour les fans de foot.
Mais ça parle pas que de foot.
Non, et c'est à mon sens une des forces d'Aohashi. Il y a aussi une dimension sociétale dans ce manga. Dès les premiers tomes, on fait comprendre aux jeunes joueurs que devenir pro n'est pas à la portée de tout le monde. Il y a très peu d'élus et beaucoup ne font pas carrière au-delà de 26-27 ans. Donc, il y a du rêve, mais c'est un rêve réaliste. Et il y a aussi une volonté de montrer, de donner de la profondeur au personnage. Aoi, par exemple, il a été élevé seul par sa mère dans des conditions difficiles. C'est un fait assez mature et un fond sociétal vraiment intéressant. Et c'est donc une très belle découverte pour moi. Il y a deux tomes parus aux éditions Mangetsu. Aohashi, ça s'appelle. Mais ce n'est que le début. Préparez-vous, le match va être long. Au Japon, il y a déjà 24 tomes.
Vous parlez de match, vous parlez de sport, vous parlez de sa maman. Ça me rappelle le film 5e set. Ça tombe très bien. Alex Lutz est avec nous. Culture Média continue. Merci beaucoup, Eric Bureau. Merci beaucoup, Clément Le Saffre.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie d'Alex Lutz, à l'affiche de 5e set, film de Quentin Reynaud avec Christine Scott-Thomas et Anna Girardot. Ça se passe dans le milieu du tennis, mais ça va évidemment bien plus loin qu'un film de réussite ou d'échec autour du sport. Et on découvre dans ce film que l'entourage est très important, l'entourage de ces grands champions. J'en parle parce que sans faire trop de parallèles évidents entre votre métier et le métier de sportif de haut niveau, vous dites que pour vous aussi, l'entourage est très important.
Je dis ça ?
Ouais, vous avez me dit cette phrase qui m'a vraiment étonné, c'est dans le dossier de presse. Vous dites « Je peux jouer devant 3000 personnes, mais si je ne suis pas soutenu par mes parents ou par mes proches, c'est un chagrin gigantesque. »
Ah bah dis donc, j'en dis des choses. Oui, en tout cas, je pense que l'énergie pour ces grands joueurs, pour des gens qui sont comme ça devant un public ou avec un public, c'est marrant, il y a à la fois quelque chose de très grand qui se recherche, à travers cette addition d'âme qui accompagne un artiste ou un sportif, et à la fois quelque chose de très intime où vous voulez prouver quelque chose à votre premier prof je crois qu'on a tous un vieux prof de maths ou une prof de français ou une tante, un oncle.
C'est
quelqu'un qu'on veut convaincre, je ne sais pas comment dire, ou qu'on veut rendre fier. Enfin, ça s'incarne dans des visages et des personnes.
Qui voulez-vous convaincre, toujours ?
j'en sais rien. Je n'étais pas un très bon élève, donc j'imagine il y a quelque chose avec la scolarité qui doit se jouer là-dedans aussi. Et puis, que ma famille et ma compagne, ma toute proche famille, mes toutes proches amies soient portées aussi par ça, enfin quelque chose comme ça, oui.
J'aurais qu'on entende des larmes, ce sont les larmes de Gaël Monfils aux Internationaux d'Australie, c'était en février dernier. Pourquoi j'aurais qu'on entende cet extrait ? Parce que c'est passé évidemment après que le film a été écrit, évidemment, a été tourné, et il fait référence à sa maman. Il était 11e mondial, Gaël Monfils, au moment des Internationaux d'Australie. Il était battu par le 86e mondial. Il n'avait pas gagné de match depuis 347 jours. Et pendant l'interview d'après-match, en conférence de presse, ils font en larmes.
Là, c'est compliqué. Ça me fait mal, parce que toi, je taffe. Toi, je m'entraîne comme un boucher. Et ça passe pas, quoi. J'aimerais bien me relever et vous dire, putain, ce cauchemar est fini, mais là, je suis dedans et je vais te donner la phrase simple de ma mère, tu vois. Elle va me dire, tu vois, il faut continuer à s'entraîner et ça reviendra. C'est ce truc.
Ça vous émeut cette séquence, vous la connaissez ?
Ah ouais, c'est horrible.
Ça vous a coupé la voix, alors je vais changer de sujet.
Non, c'est sublime. En plus, j'ai eu l'occasion là, de faire une petite émission avec lui, parce qu'il a un super truc web. Vous vous rendez compte, effectivement, il parle de tunnel, d'un truc incompréhensible, et puis ça vous rapproche, c'est effectivement ce petit conseil de la maman, c'est très 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 émouvant.
Note très optimiste avec laquelle j'aurais qu'on termine cette émission, vous avez tourné un film pour Canal, La Vengeance au triple galop, c'est une parodie.
Oui, c'est une parodie de d'un unitaire, ouais. D'une série australienne et américaine, je crois, qui s'appelait La Vengeance aux deux visages.
Ouais.
Le destin incroyable de Stéphanie Harper, qui sera incarnée par Audrey Lamy, et puis il y a plein d'acteurs.
Là-bas. Oh là là, alors je les ai. Karine Viard, Leila Bekti, Marion Cotillard, Guillaume Gallienne, Gaspard Ulliel, Ingrid Chauvin, Isia Illien, Audrey Lamy, vous l'avez dit. J'avais jamais vu un casting comme ça. Je me suis dit, est-ce que vous aviez un énorme budget ? Où est-ce que vous avez le deuxième carnet d'adresses de Paris après celui de Dominique Besnéard ?
Non, on avait un budget tout à fait raisonnable parce que c'est une carte blanche que m'avait proposé Canal. Donc il ne s'agissait pas non plus de se mettre sur des budgets stratosphériques, loin s'en faut. On a tourné sur peu de jours, mais on savait pertinemment avec mon co-réalisateur Arthur Sanigou ce que l'on souhaitait. Et puis les copains sont venus parce qu'ils n'avaient pas non plus des tonnes de jours, mais ils ont des très belles partitions à jouer.
Bon.
Donc c'est super.
Et ce que ça dit de vous, c'est que vous avez des tonnes et des tonnes de copains et de bons copains. Quelle liste ! Merci beaucoup Alex Lutz. Je rappelle, 5e set, film de Quentin Reynaud qui sort aujourd'hui avec Christine Scott Thomas et Anna Girardot.
Et c'est un film que vraiment, je le dis, j'ai vraiment adoré le faire et le voir. C'est pas toujours... Ouais. Ça s'aligne pas toujours comme ça, donc c'est super.
Les planètes sont alignées. Nous, demain, on se retrouve à 9h pour Culture Média. On va parler de la nouvelle saison de Fort Boyard. On sera avec celui qui incarne le père Fouras, le comédien Yann Le Gac, et une des participantes, Élodie Gossuin, et puis un musicien et aussi patron du label Tricatel, c'est Bertrand Burgala, qui va nous parler de son nouvel album et de son entreprise à nul autre pareil. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1, à demain, salut.
Europe 1, Culture Média.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs ? Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.